Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La laïcité ne doit pas exclure la réalité religieuse ni lui être hostile. C'est l'avertissement lancé par le pape François devant un groupe de parlementaires français ce samedi matin. Dans une allusion à peine voilée à l'actualité récente, le Saint-Père a souhaité que les lois ne reflètent pas uniquement les modes et les idées du moment. Les détails dès le début de cette émission. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Réunis autour du souverain pontife, des catholiques du monde entier sont venus réaffirmer la valeur de la vie humaine et rendre hommage à ceux qui se dépensent en faveur des souffrants. Vous entendrez Mgr Dornelas dans ce magazine. Un juste parmi les nations, élevé à l'honneur des autels en Italie, un père de famille catholique mort dans un camp nazi en Bavière pour avoir sauvé plus de 100 juifs. En fin d'émission, ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Le principe de laïcité qui gouverne les relations entre l'État français et les différentes confessions religieuses ne doit pas signifier en soi une hostilité à la réalité religieuse ou une exclusion des religions du champ social et des débats qui l'animent. C'est le pape François qui l'a affirmé ce samedi matin au Vatican. Le souverain pontife recevait dans la salle Clémentine une délégation de parlementaires français, membres du groupe d'amitié France-Saint-Siège. Le compte-rendu de Thomas Chabol.
Le pape François n'a pas fait allusion explicitement au dossier qui divise actuellement l'opinion publique française, à commencer par le mariage pour tous, mais il a défendu implicitement le droit pour les croyants de s'exprimer sur la scène publique. L'Église, a-t-il dit, désire apporter sa contribution spécifique sur des questions profondes qui engagent une vision plus complète de la personne, de la société, de leur destin. Cette contribution ne se situe pas uniquement dans le domaine anthropologique ou sociétal, mais aussi dans les domaines politiques, économiques et culturels. Rappelons que le travail des élus consiste notamment à proposer les lois, mais aussi à les amender et même à les abroger. Il les a encouragés à insuffler dans leur travail un supplément qui ne reflète pas uniquement les modes et les idées du moment, mais qui leur apporte l'indispensable qualité qui élève et anoblit la personne humaine. Le Saint-Père a salué la qualité des relations entre la France et le Saint-Siège, ainsi que des relations de confiance qui existent généralement en France entre les responsables de la vie publique et ceux de l'Église catholique. Enfin, il a encouragé ses interlocuteurs à favoriser l'amélioration de la vie de leurs concitoyens et à promouvoir la fraternité dans leur pays.
À l'issue de l'audience pontificale, les parlementaires ont accepté de répondre aux questions des journalistes, parmi eux Antonino Gallofaro pour Radio Vatican. Écoutez donc les réactions de Xavier Breton, député UMP de l'Ain, de Charles Revet, sénateur UMP de Seine-Maritime, enfin de Thomas Thévenoud, député socialiste de Saône-et-Loire.
Il nous a rappelé notre liberté de législateur et qu'on ne doit pas suivre les modes du moment et le faire en conscience. Et après, je crois que c'est à nous de choisir ce qui nous paraît le meilleur pour notre pays à un moment donné. Donc ça a été un message de laïcité. Il a beaucoup insisté au début pour dire que la laïcité, ce n'est pas l'exclusion des religions du champ social. C'est bien aussi apporter un éclairage. Et après ça, il y a la liberté du législateur. Et donc ça nous appartient complètement.
Je pense qu'il considère que la France a une mission particulière. Et je pense qu'il veut le souligner dans des moments importants où les choses bougent dans le monde. Le fait que le pape reçoive une forte délégation de parlementaires montre que pour lui, la France a une mission aussi importante dans le monde.
Il faut lire le passage, je vous dis bien, effectivement, comme le dit Olivier Marleix, qu'il a souligné les relations de confiance qui existent généralement en France entre les responsables de la vie publique et ceux de l'Église catholique. Donc voilà, il y a quand même un lien qui existe. Il a bien souligné sur cet aspect français. On en a profité également à la fin, quand on a remis un livre au nom des deux groupes, pour dire au pape François qu'il serait le bienvenu en France, que les Français l'attendent, avec impatience.
Voilà, tout à fait.
Il a rappelé des choses qui sont importantes, à la fois le rôle d'un parlementaire, qui est de faire la loi, mais aussi d'être attentif aux situations humaines qu'il reçoit, qu'il rencontre. C'est ce que nous faisons quand nous sommes parlementaires. C'est aussi ça, notre travail de parlementaire, d'être au service de l'autre. Et il l'a bien rappelé dans son message. Je pense que c'est un pape qui fait preuve d'humilité, qui a une attention particulière pour la justice et la justice sociale en particulier, et qui, parce que c'est un pape du Nouveau Monde, a la préoccupation de ne pas faire en sorte que cette mondialisation qui parfois fait des victimes soit plus juste. Mais je ne qualifierai pas politiquement le pape.
La réaction de trois parmi la cinquantaine de parlementaires français reçus en audience par le pape François. Le président de la Commission européenne a lui aussi été reçu en audience au Vatican. José Manuel Barroso s'est entretenu avec le pape François pendant une quinzaine de minutes dans la bibliothèque du Palais apostolique, puis avec le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone, accompagné du secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Dominique Manberti. Les échanges ont porté sur la situation internationale, sur le processus d'intégration européenne et bien entendu sur la crise économique qui a des conséquences très graves sur l'emploi, surtout parmi les jeunes, et un impact négatif sur la vie des familles. Il a aussi été question de la promotion des droits de l'homme, particulièrement de la liberté religieuse et de la protection des minorités chrétiennes dans le monde. Cette fin de semaine à Rome est placée sous le signe de l'évangile de la vie. Dans le cadre des initiatives pour l'année de la foi, le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation a convié des malades, des handicapés, des personnels de santé, associations d'aide aux infirmes et mouvements pour la vie pour deux journées de prières, de réflexion et de témoignages sur le thème « En croyant, nous avons la vie ». Réunis autour du pape François, des catholiques venus du monde entier veulent insister sur la valeur sacrée de la vie, celle des personnes âgées, des malades, des mourants, des enfants à naître. L'objectif est aussi d'encourager tous ceux qui s'efforcent de venir en aide à ceux qui souffrent. Ce dimanche à 10h30, le pape François présidera une concélébration eucharistique sur la place Saint-Pierre suivie de l'Angélus. Samedi, la soirée aura été marquée par une procession au flambeau le long de l'avenue de la Conciliazione suivie d'une veillée sur la place Saint-Pierre. Pendant la journée de samedi, les participants ont pu se rendre en pèlerinage sur la tombe de l'apôtre Pierre, participer à l'adoration eucharistique et au sacrement de pénitence dans les églises situées dans les alentours de la basilique Saint-Pierre et assister à des catéchèses et à l'Eucharistie par groupe linguistique. Antonino Gallofaro a rencontré le groupe francophone à Saint-Louis des Français. L'archevêque de Rennes, Mgr Pierre Dornelas, était venu expliquer aux pèlerins français la conception par l'Église de la vie. Il s'est basé sur l'encyclique de Jean-Paul II, Evangelium Vitae, écrite en 1995. Venu s'adresser aux fidèles francophones, Mgr Dornelas a souhaité leur donner une clé de discernement par rapport à toutes les questions relatives à la vie.
Si nous réfléchissons à la question suivante, qu'est-ce que la vie humaine? Comment aborder la vie humaine? Comment la regarder? Il n'est pas difficile d'arriver à la réalité suivante. Le verbe qui caractérise la relation à la vie humaine, c'est le verbe recevoir. Recevoir la vie. Et le problème, c'est que comment la technique peut-elle être un acte de réception de la vie? Et à mon avis, c'est ça la question. Si la technique est une maîtrise de la vie, elle est forcément une maîtrise de la vie selon certains critères, forcément. Par contre, la technique peut être dans une dynamique de réception de la vie, de telle sorte qu'elle devienne, cette technique, au service de la vie qu'elle a à recevoir. C'est tout le débat entre recevoir la vie et maîtriser la vie.
Est-ce que cette clé de discernement, ce message sera le même pour tous? Est-ce qu'il sera reçu par tous de la même façon d'après vous?
Je ne connais pas quelqu'un qui puisse dire « j'ai maîtrisé la conception de ma vie ». Tout le monde reçoit la vie. Alors ceci est plus ou moins présent à l'intelligence, bien sûr. C'est plus ou moins enfoui, plus ou moins caché, ou plus ou moins présent. Mais dès qu'on se met à réfléchir, tout le monde reconnaît que la vie... Ma vie, je l'ai reçue. Et cette réception de la vie, c'est l'acte le plus fondamental de l'existence humaine, à tel point que cet acte de réception ne pose pas de questions. Et petit à petit, on découvre, selon par exemple la grande pensée d'Aimé Forest, philosophe, que toute la question humaine, c'est la question du consentement. Consentir à la vie que j'ai, c'est la recevoir.
C'était l'archevêque de Rennes, Mgr Pierre Dornelas. La messe du Saint-Père ce dimanche, suivie de l'Angélus, sera retransmise par Radio Vatican à partir de 10h20 avec commentaires en français. Si vous vivez en Afrique, vous pourrez la suivre sur l'onde courte 17 520 kHz. Si vous êtes dans la région de Rome, en modulation de fréquence sur 103,8 MHz et où que vous soyez sur notre player, canal 2 et canal 7 pour le français, à l'adresse www.radiovaticana.va. Les plus hautes charges de l'Institut pour les œuvres de religion qui sont restées vacantes pendant plusieurs mois sont désormais pourvues. Le nouveau prélat de Lior a été nommé par la commission cardinaliste de surveillance de l'Institut. Le poste était vacant depuis 2011. Monseigneur Battista Ricca l'occupera par intérim. Sa nomination, qui intervient peu de temps après celle du nouveau président, l'industriel allemand Ernst von Freiberg, a été approuvée par le pape François. Conformément au statut de Lior, Monseigneur Ricca fera office de secrétaire lors des rencontres de la commission cardinaliste et assistera aux réunions du conseil de surintendance. Il s'agit donc d'un rôle de médiation et d'intermédiaire, a expliqué le directeur du bureau de presse du Saint-Siège. S'il est nommé par intérim, encore précisé le père Federico Lombardi, c'est en raison du contexte de réflexion générale sur la curie et dans l'attente des décisions qui seront définitives. Italien âgé de 57 ans, issu de la diplomatie du Saint-Siège, Mgr Ricca travaille auprès de la première section de la secrétaire d'État et dirige les résidences vaticanes, dont la maison Sainte-Marthe, où réside le Saint-Père. Son nom était déjà inscrit dans le livre des justes parmi les nations à Yad Vashem, le mémorial israélien de la Shoah. Il figure aussi désormais parmi les bienheureux reconnus par l'Église catholique. L'intellectuel italien Odoardo Focherini, membre et dirigeant de l'Action catholique italienne, père de 7 enfants, journaliste et administrateur du quotidien Venire d'Italia, a été béatifié ce samedi par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Quelques 5000 personnes ont assisté à la messe solennelle à Carpi, ville natale du nouveau bienheureux dans le diocèse de Modène. Pour avoir pris la défense des juifs persécutés pendant l'Holocauste, il fut arrêté et interné dans un camp de concentration allemand où il mourut en héros en 1944. Grâce à une organisation clandestine, il avait réussi à sauver une centaine de juifs avec l'appui de la curie épiscopale. Le 10 mai 2012, Benoît XVI avait reconnu le martyr de ce témoin héroïque. La foi au miroir de la psychanalyse, c'est le livre pour Dieu que nous propose cette semaine sœur Catherine Aubin. L'auteur Yves Lefebvre est didacticien du syndicat des praticiens en psychothérapie et psychanalyse et animateur du groupe de formation continue des chrétiens en santé mentale. Il nous explique comment il a mis en miroir la foi et la psychanalyse.
En fait, ce livre est le fruit de toute une expérience de vie, parce que j'ai d'abord été nourri de la foi chrétienne, puis de la psychanalyse, et j'ai longtemps vécu les deux comme une contradiction. En effet, dire que la psychanalyse remet en cause de nombreux aspects du vécu religieux, elle secoue les croyances, elle ébranle la morale, c'est-à-dire elle propose une lecture du vécu des gens tout à fait différente, où ce sont les mécanismes de l'inconscient qui rendent compte de ce vécu sans qu'il soit besoin d'y introduire un dieu. Et alors, la psychanalyse, quand elle parle de Dieu, en tout cas Freud, elle y voit le plus souvent une projection d'un parent idéalisé, ou bien une représentation de cette espèce de surmoi culpabilisant qui impose de refouler ses pulsions, enfin, le père castrateur du fameux complexe d'Édipe, ou encore quelquefois c'est l'idéal du moi projeté sur une image divine à laquelle on veut atteindre et qui est en fait, pour la psychanalyse, une manifestation du narcissisme. C'est-à-dire jouissance mortifère d'un idéal de soi-même qui ne peut, enfin moi idéal, qui ne peut laisser de place à l'altérité. Et on voit bien dans toutes les violences intégristes au nom de la pureté religieuse, cette annulation de l'autre différent qui est très narcissique en fait. La psychanalyse nous enseigne ça.
Et c'est les aperçus que vous avez voulu traiter dans votre livre, ce que vous venez de nous dire.
Alors, j'ai traité ça pour montrer que la psychanalyse conteste les aspects pathologiques de la religion, mais pas du tout la religion elle-même, dont elle ne peut rien dire, en fait. Et d'ailleurs, Freud lui-même disait « Finalement, je ne peux rien en dire parce que je n'en ai pas l'expérience. » Parce que la religion, au contraire, met Dieu au centre de tout et non pas l'homme. Et elle veut relier l'homme à un principe transcendant qui le dépasse. Il y a une source transcendante d'où le renouveau de la vie jaillit. Donc nous, on est dans un autre système d'explication du monde. Justement, quand on met les deux en contact à l'intérieur de soi-même, parce qu'on a vécu les deux, quand on ose se confronter à ça sans craindre les contradictions que ça peut déclencher, il va y avoir une transformation des deux, c'est-à-dire la psychanalyse telle qu'on pouvait la vivre va perdre quelque chose, et la religion aussi, et la psychanalyse va gagner quelque chose, et la religion aussi. Et ça, c'est très intéressant de faire cette expérience vécue. On pourrait dire que la psychanalyse qui accueille le sentiment religieux, elle va perdre un certain dogmatisme intellectuel pour retrouver au fond ce qu'elle est profondément dans son essence, c'est-à-dire l'écoute toujours surprenante des chemins mystérieux de l'inconscient humain. Elle va être obligée de s'arrêter aux limites du mystère de la vie, qu'elle ne pourra jamais réduire à ses seuls concepts. Par ailleurs, la religion confrontée à la psychanalyse, elle va perdre beaucoup de sa rigidité moraliste, dogmatique et institutionnelle, je dirais, qui vont apparaître seulement comme des moyens, et non pas comme des choses un peu idolâtrées, des moyens qui permettent de se tourner vers le divin, et non des idoles à défendre à tout prix. C'est-à-dire, elle y gagnera de retrouver ses origines, c'est-à-dire le souffle vivant, expérientiel, je dirais, qu'il a porté à ses débuts. La religion des origines, elle est expérimentée, vécue, pas du tout mentale. Et donc, on retrouve, quand on a épuré la religion de tous ses côtés psychiques, la fonction de la religion, bah, finalement, c'est de conduire les hommes à leur propre réalisation, qui est dans le divin. Quoi.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par Catherine Aubin. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche, 16 juin, le 11e du temps ordinaire. C'est l'évangile selon saint Luc, du chapitre 7, verset 36 au chapitre 8, verset 3. C'est le célèbre passage du pharisien et de la pécheresse. Si ses péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour.
Ce passage atteste de la miséricorde infinie de Dieu. La pécheresse nous montre comment celui qui se repent s'avance avec une totale confiance vers Jésus. La pécheresse sait que Jésus est chez le pharisien et elle s'y rend sans craindre le jugement et le regard de ceux qui l'entourent. Elle se montre telle qu'elle est. Elle apporte un vase précieux plein de parfums qu'elle répand sur les pieds de Jésus. Ce parfum représente sa contrition. Ses larmes mouillent les pieds de Jésus et avec ses cheveux, elle les essuie. La beauté de ce geste est qu'il a un double sens. Elle lave les pieds de Jésus, mais c'est Jésus qui la lave de ses fautes. La réaction du pharisien montre qu'il n'a pas encore accompli tout le chemin qu'a parcouru la pécheresse. Il se dit « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Le pharisien n'est donc pas sûr de qui est Jésus. Il l'a invité chez lui pour le questionner, pour mener sa propre enquête. Et ce qu'il voit ne le convainc pas. Un prophète ne se laisserait pas approcher d'une pécheresse, car il deviendrait alors impur. Selon le pharisien, Dieu et l'homme de Dieu à sa suite se doivent d'éviter tout contact avec ce qui est souillé. Jésus est en train de lui enseigner l'inverse. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour rejoindre tout homme dans son péché, pour que l'homme pécheur se laisse toucher par Dieu. Puis il lui propose une question en partant d'une parabole. Par sa réponse, le pharisien est amené à se rendre compte par lui-même de son erreur. Jésus est donc prophète, mais aussi maître. Il enseigne « Celui à qui est remis la dette la plus grande montrera plus d'amour et de reconnaissance que celui à qui fut remis une dette inférieure. » Mystérieusement, le pécheur repenti est celui qui aimera le plus Jésus, car il expérimente la miséricorde sans limite de Dieu. Faudrait-il donc pécher plus pour connaître encore plus la miséricorde de Dieu? Certes non. La Vierge Marie n'a jamais péché, et pourtant elle magnifie la miséricorde de Dieu dans le Magnificat. Ne pas pécher est donc aussi un signe de la miséricorde préventive de Dieu. Toutefois, le sommet de la révélation de Jésus dans ce passage n'est pas encore atteint. Jésus montre que les actes posés par la pécheresse sont des actes d'amour. Il reprend un enseignement déjà présent dans l'Ancien Testament. L'amour couvre une multitude de péchés. Puis il dit « Tes péchés sont pardonnés ». Seul Dieu peut pardonner les péchés. Le pharisien se demandait si Jésus était un prophète. Bien plus que cela, il est le Messie, le Fils de Dieu. En ce jour, nous sommes appelés, nous aussi, à avancer d'un cœur confiant aux pieds de Jésus pour lui demander sa miséricorde. Nous sommes aussi appelés à poser des actes de charité, des actes gratuits, où nous donnons de notre temps et de notre personne pour être témoins de l'amour infini de Dieu.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission, mais vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous lire à tout moment sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Bon dimanche à tous.